Chapitre 10. Gaillette. Ils sont venus avec leurs épouses, tous les barons qui étaient à la chasse quand le château fut attaqué. Ils ont félicité Guilhem et loué sa vaillance juvénile. Dame Gaillette les laissa dans la salle d'hôte, où les cruches de vin passaient de main en main pour étancher des soifs inépuisables. Elle descendit au jardin qu'un vrai miracle avait gardé presque intact. L'assaut de la nuit n'avait pas porté ici ses coups. Fleurs et légumes de la fin de l'été s'y mêlaient, protégés du vent par un dernier rempart. Gaillette n'avait d'autre but que la promenade. Elle regardait distraitement les choux, l'hiver dont le cœur commençait à s'arrondir, les choux d'hiver dont le cœur commençait à s'arrondir, les raves qu'on arracherait bientôt et qu'on conserverait enfouies dans le sable. Le soleil était encore très doux pour la saison. Une abeille risquait pourtant de mourir de froid pour butiner les chrysanthèmes. Il avait plu dans la nuit. Toutes les odeurs des haies mouillées emplissaient l'air. Sur les feuilles, de petits escargots laissaient des traces brillantes. Gaillette s'arrêtait quand sa robe s'accrochait aux branches des arbres fruitiers. Elle dégageait l'étoffe d'un petit geste sec et reprenait sa promenade en mordant sa lèvre comme pour réprimer une envie de sourire. Elle arriva ainsi sous un figuier. Il y avait là un banc, d'où l'on pouvait voir tout le pays. La châtelaine resta un long moment à contempler la campagne. Une chanson de toile lui revint en tête et elle la fredonna. La brise souffle, la ramée se balance, doux sommeil à ceux qui s'entraînent. Et elle souriait, la belle Gaillette, car elle était heureuse. N'était-elle pas aimée par l'un des plus gentils seigneurs du Languedoc? Ce pas qui s'approchait était peut-être celui de Guilhem. Elle ne se retourna pas tout de suite, par crainte d'être déçue. Elle feignit de regarder le paysage qu'elle avait sous les yeux, mais elle ne voyait plus rien. Ni son château de Souille sur la colline voisine, ni les nuages au-dessus des bois. Tout son cœur écoutait le sable qui crissait, d'une façon qu'à présent elle reconnaissait. Elle ne se retournait point. Encore un moment, encore. Quand elle s'y résolut, Guilhem était auprès d'elle.
« Oh, comme vous m'avez fait peur !»«
Pardonnez-moi, je crains toujours que vous ne vous ennuyiez quand je vous vois ainsi songeuse en un jardin. » Gaillette se mit à rire.
« À quoi, à qui croyez-vous donc que je songe ?»
Emporté par un mouvement d'amour, Guilhem mit un genou en terre. « Acceptez, madame, un gage de ma foi. Dites, je vous en prie, que vous acceptez. »«
Relevez-vous, messire, puisque j'accepte. »
Le chevalier fit un signe. Un valet qui jusque-là s'était tenu caché dans le verger s'approcha. Il portait sur son poing un oiseau de proie. C'était un obereau, dont la tête était recouverte d'un capuchon de cuir blanc empanaché de plumes multicolores. À sa patte brillait une bague d'or ornée d'un grelot.
« Qu'il est beau, messire, et que vous êtes bon !»
Gaillette lissa du bout du doigt l'endroit sur le col où finissait le capuchon. Le rapace frémit. Il décroisa les ailes, prêt à l'envol, mais un sifflement très doux de Guilhem le retint. C'est un branchier nouvellement dressé. Le fauconnier qui s'est chargé de son affêtage assure qu'il n'aura pas son pareil. Gaillette partageait avec le chevalier la passion de la chasse au vol. Plus encore qu'une agrafe d'or ou qu'une étoffe de lin, un oiseau offert en gage d'amour la remplissait de joie.
« Ne vous jouez pas de mon impatience, messire. Quand allons-nous l'essayer ?»«
Demain. Pour célébrer notre victoire, nous chasserons au vol. J'ai envoyé des messagers dans tous les châteaux du voisinage. » Martin était exact au rendez-vous que lui avait fixé sa mère. Encore une course à la nuit tombée. Combien y en aurait-il encore ? La vie des proscrits est ainsi faite de longues marches clandestines, d'interminables heures dans les cachettes. L'enfant attendait au creux du lilas que sa mère trouva l'obscurité assez épaisse pour le rejoindre. « Les voisins sont dans leur clos. Elle ne viendra pas tant qu'ils ne seront pas rentrés. Je la connais, elle a toujours peur. Elle se méfie de tout. » D'abord, il n'y eut qu'un bêlement d'agneau et celui plus grave de la brebis qui rappelait son petit. Puis une dispute de poules ensommeillées pour une place sur un perchoir. Martin reconnaissait tous les bruits de ces soirs de liberté. Puis, et là, il prêta l'oreille, quelques bribes d'une conversation entre voisins. « Demain. Avec les oiseaux ? Bien sûr, puisque les dames y seront. Ce sera une grande chasse. » Martin apprit la nouvelle, le cœur battant. Son faucon ferait sûrement partie de cette chasse. Le fauconnier devait être si impatient de montrer son savoir-faire.
Demain.
Toute la compagnie s'arrêtera à la fonte d'El Planète. Continuez d'expliquer le manant de l'autre côté de la haie. Le reste de la conversation fut perdu pour Martin. Le couple était rentré chez lui. La mère qui guettait ce moment apparut. Elle serra très fort son enfant dans ses bras et tout de suite, parce que le temps était précieux, elle dit, des larmes plein la voix, «
Je n'ai pas pu parler au Seigneur, mon pauvre Pichou. On ne m'a pas laissé passer le pont. On m'a dit de revenir, qu'il n'était pas là et la dame non plus. Oh, je reviendrai, je leur ai dit. Je reviendrai jusqu'à ce que je le voie. Les gardes ont ri. Mais sois patient, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est bon. S'il m'avait vu à ce moment-là, il m'aurait écouté. J'en suis sûre. J'y retournerai, je crierai, j'appellerai. Tu verras, je réussirai. Un jour prochain, peut-être. Oui, oui, un jour prochain. Ce n'était plus à sa grâce que pensait Martin. Il n'écoutait plus ce qu'elle disait. Il répondait par des hochements de tête, des oui-oui distraits. Il aurait voulu que ce fût déjà le lendemain. Il écourta l'entrevue. La mère le laissa partir, soulagée au fond d'elle-même qu'il ne lui eût pas posé de questions au sujet de la chasse. Sans doute n'en savait-il rien. Tant mieux. Quelle chance qu'il soit au monastère. Là-bas, il n'entendrait parler de rien. Martin s'en retournait auprès de frère Vincent. La nuit était noire. Le vent qui avait soufflé toute la journée avec le soir s'était calmé. Il laissait un peu de répit aux branches et aux chaumes des toits. Demain, il recommencerait. Demain. Martin, tout en marchant, ne pensait qu'à cela. Demain, le Seigneur chasserait au vol avec ses invités. Toute la compagnie s'arrêtera pour boire et manger dans le pré de la Fundel Planète, avait dit le voisin à la voisine. Ce sera bien commode pour les dames au bord du chemin. La Fundel Planète, c'était cette fontaine que le vieux seigneur, père du seigneur actuel, avait fait construire au pied du village pour que les pèlerins puissent s'y désaltérer. Martin la connaissait bien. Souvent, il en puisait l'eau dans le cuveau de bois. Il posait ensuite le cuveau au milieu du pré. Toutes les oies s'accroupissaient autour, broutant un brin d'herbe, buvant une gorgée d'eau, et comme cela pendant des heures. Il en profitait pour courir les bois. C'était là que le lendemain, son faucon, présenté sur un gant de cuir, serait admiré de toute la compagnie après avoir montré ses qualités de rapace. Martin contourna le coteau qui portait le village et arriva au lieu qu'il voulait revoir. La fontaine était un puits recouvert d'un toit arrondi adossé à un tertre. Deux grands peupliers la surmontaient. En été, un parterre d'orties faisait mériter l'eau aux voyageurs assoiffés. Que de brûlures il fallait endurer avant de pouvoir se désaltérer. Martin s'assit sur le rebord de pierre. Dans ce pré où rien ne bougeait, que les souffles habituels de la nuit, il imagina l'animation du lendemain. Il vit les grandes nappes de toile blanche étalées sous les arbres pour permettre l'amoncellement des viandes, des coupes de fruits, des gobelets et des aiguières. Il recréa les pages allant d'un invité à l'autre et offrant des mets auxquels lui Martin n'avait jamais goûté. Les belles dames riaient en s'asseyant dans l'herbe. Les seigneurs leur feraient admirer le gibier qu'on aurait tué dans la matinée et qu'on alignerait sur le chemin. Le fauconnier, s'il était rétabli, s'occuperait des oiseaux. Que ferait-on du hobereau? Tout le monde l'admirerait, bien sûr, il était si beau. Et après? S'il était là, Martin, au bon moment. S'il n'y avait plus de murailles à franchir, de portes à forcer, de pont-levis, de herses, rien que quelques vallées fatiguées par la chasse, quelques pages écervelées, un fauconnier mal guéri de sa blessure. Martin, assis sur la margelle, retenait son souffle. Les chiens! On lancerait peut-être les chiens à ses trousses! Alors elle serait perdue. Que ferait-il s'il échappait à tous ces dangers? Où irait-il? L'œil jaune de l'oiseau, ses culottes rousses, son plumage si doux sur le col. Sa façon de planer au-dessus de Martin courant sur le sentier. Est-ce que tout cela serait encore possible, ailleurs? Le garçon se leva brusquement, sans réfléchir davantage. Il n'avait pas besoin d'étudier le terrain, il le connaissait. Il savait que là où poussaient les orties, il y avait un creux, derrière la fontaine. Le toit qui lui donnait de l'ombre, l'eau tombait du cuveau à chaque puisage et entretenait une bonne fraîcheur. Quelquefois, il y avait un serpent, mais seulement en été. De ce creux, entre les troncs des peupliers, on pouvait voir tout ce qui se passait dans le pré. Et du pré, on ne voyait pas le creux derrière la fontaine. Martin sauta le fossé, tournant le dos au monastère, et prit la direction des bois.